Chapitre 19. L'hôtel de Grandlieu. La maison de Grandlieu s'est partagée en deux branches vers le milieu du dernier siècle. D'abord la maison ducale condamnée à finir, puisque le duc actuel n'a eu que des filles. Puis les vicomtes de Grandlieu qui doivent hériter du titre et des armes de leur branche aînée. La branche ducale porte de gueule à trois douloirs ou haches d'armes d'or mises en face, avec le fameux Caveo non timeo, pour devise, qui est toute l'histoire de cette maison. L'écusson des vicomtes est écartelé de Navarin, qui est de gueule, à la face crénelée d'or, et timbré du casque de chevalier, avec grand fait, grand lieu, pour devise. La vicomtesse actuelle, veuve depuis 1813, a un fils et une fille. Quoique revenue quasi ruinée de l'émigration, elle a retrouvé, par suite du dévouement de Navoué, de Derville, une fortune assez considérable. Rentrés en 1804, le duc et la duchesse de Grandlieu furent l'objet des coquetteries de l'empereur. Aussi Napoléon, qui les eut à sa cour, rendit-il tout ce qui se trouvait à la maison de Grandlieu dans le domaine, environ 40 000 livres de rente. De tous les grands seigneurs du faubourg Saint-Germain qui se laissèrent séduire par Napoléon, le duc et la duchesse, une adjudat de la branche aînée alliée aux Bragances, furent les seuls qui ne renièrent pas l'empereur ni ses bienfaits. Louis XVIII eut égard à cette fidélité lorsque le faubourg Saint-Germain en fit un crime au grand lieu. Mais peut-être en ceci, Louis XVIII voulait-il uniquement taquiner monsieur. On regardait comme probable le mariage du jeune vicomte de Grandlieu avec Marie Athénaïs, la dernière fille du duc, alors âgée de 9 ans. Sabine, l'avant-dernière, épousa le baron du Guénic après la révolution de juillet. Joséphine, la troisième, devint madame d'Adjuda Pinto quand le marquis perdit sa première femme, mademoiselle de Rochefide, alias Rochegude. L'aînée avait pris le voile en 1822. La seconde, mademoiselle Clotilde Frédéric, en ce moment, à l'âge de 27 ans, était profondément éprise de Lucien de Rubempré. Il ne faut pas demander si l'hôtel du duc de Grandlieu, l'un des plus beaux de la rue Saint-Dominique, exerçait 1000 prestiges sur l'esprit de Lucien. Toutes les fois que la porte immense tournait sur ses gonds pour laisser entrer son cabriolet, il éprouvait cette satisfaction de vanité dont a parlé Mirabeau. Quoique mon père ait été simple pharmacien à Loumeau, j'entre pourtant là. Telle était sa pensée. Aussi eut-il commis bien d'autres crimes que ceux de son alliance avec Jacques Collin pour conserver le droit de monter les quelques marches du perron pour s'entendre annoncer « Monsieur de Rubempré » dans le grand salon à la Louis XIV, fait du temps de Louis XIV sur le modèle de ceux de Versailles, où se trouvait cette société d'élite, la Crème de Paris, nommée alors le Petit Château. La noble portugaise, une des femmes qui aimait le moins à sortir de chez elle, était la plupart du temps entourée de ses voisins, les Chaulieu, les Navarins, les Lenoncourt. Souvent la jolie baronne de Macumer, née Chaulieu, la duchesse de Maufrigneuse, Madame d'Espard, Madame de Caen, Mademoiselle des Touches, alliées aux grands lieux qui sont de Bretagne, se trouvaient en visite, allant au bal ou revenant de l'opéra. Le vicomte de Grandlieu, le duc de Rhétoré, le marquis de Chaulieu, qui devait être un jour duc de Lenoncourt-Chaulieu, sa femme Madeleine de Mortsauf, petite-fille du duc de Lenoncourt, le marquis d'Adjuda Pinto, le prince de Blamont-Chauvry, le marquis de Beauséant, le vidame de Pamiers, les Vandenesse, le vieux prince de Cadignan et son fils, le duc de Maufrigneuse, étaient les habitués de ce salon grandiose où l'on respirait l'air de la cour, où les manières, le ton, l'esprit s'harmoniaient à la noblesse des maîtres dont la grande tenue aristocratique avait fini par faire oublier leur servage napoléonien. La vieille duchesse d'Uxelles, la mère de la duchesse de Maufrigneuse, était l'oracle de ce salon où Madame de Sérisy n'avait jamais pu se faire admettre, quoique née de Ronquerolles. Amenée par Madame de Maufrigneuse, qui avait fait agir sa mère, Lucien s'y maintenait grâce à l'influence de la grande aumônerie de France et à l'aide de l'archevêque de Paris. Il ne fut présenté toutefois qu'après avoir obtenu l'ordonnance qui lui rendit le nom et les armes de la maison de Rubempré. Le duc de Rhétoré, le chevalier d'Espard, quelques autres encore, jaloux de Lucien, indisposait périodiquement contre lui le duc de Grandlieu en lui racontant des anecdotes prises aux antécédents de Lucien. Mais la dévote duchesse, entourée déjà par les sommités de l'église, et Clotilde de Grandlieu le soutinrent. Lucien expliqua d'ailleurs ses inimitiés par son aventure avec la cousine de Madame d'Espard, Madame de Bargeton, devenue comtesse Châtelet. Puis, en sentant la nécessité de se faire adopter par une famille si puissante et poussé par son conseil intime à séduire Clotilde, Lucien eut le courage des parvenus. Il vint là 5 jours sur les 7 de la semaine, il avala gracieusement les couleuvres de l'envie, il soutint les regards impertinents, il répondit spirituellement aux railleries. Son assiduité, le charme de ses manières, sa complaisance finirent par neutraliser les scrupules et par amoindrir les obstacles. Reçu chez la duchesse de Maufrigneuse, chez Madame de Sérisy, chez Mademoiselle des Touches, Lucien, content d'être admis dans ces 3 maisons, apprit de l'abbé à mettre la plus grande réserve dans ses relations. « On ne peut pas se dévouer à plusieurs maisons à la fois, » lui disait son conseiller intime. « Qui va partout ne trouve d'intérêt vif nulle part. Les grands ne protègent que ceux qui rivalisent avec leurs meubles, ceux qu'ils voient tous les jours et qui savent leur devenir quelque chose de nécessaire, comme le divan sur lequel on s'assied. » Habitué à regarder le salon des grands lieux comme son champ de bataille, Lucien réservait son esprit, ses bons mots, les nouvelles et ses grâces de courtisan pour le temps qu'il y passait le soir. Insinuant, caressant, prévenu par Clotilde des écueils à éviter, il flattait les petites passions de M. de Grandlieu. Après avoir commencé par envier le bonheur de la duchesse de Maufrigneuse, Clotilde devint éperdument amoureuse de Lucien. En apercevant tous les avantages d'une pareille alliance, Lucien joua son rôle d'amoureux, comme l'eût joué Armand, le dernier jeune premier de la Comédie française. Lucien allait à la messe à Saint-Thomas d'Aquin tous les dimanches, il se donnait pour fervent catholique, il se livrait à des prédications monarchiques et religieuses qui faisaient merveille. Il écrivait d'ailleurs dans les journaux dévoués à la congrégation des articles excessivement remarquables, sans vouloir en recevoir aucun prix, sans y mettre d'autre signature qu'un L. Il fit des brochures politiques, demandées ou par le roi Charles X ou par la grande aumônerie, sans exiger la moindre récompense. « Le roi, disait-il, a déjà tant fait pour moi que je lui dois mon sang. » Aussi, depuis quelques jours, était-il question d'attacher Lucien au cabinet du Premier ministre en qualité de secrétaire particulier. Mais Madame d'Espard mit tant de gens en campagne contre Lucien que le maître Jacques de Charles X hésitait à prendre cette résolution. Non seulement la position de Lucien n'était pas assez nette, et ces mots « de quoi vit-il » que chacun avait sur les lèvres à mesure qu'il s'élevait, demandaient une réponse. Mais encore, la curiosité bienveillante comme la curiosité malicieuse allait d'investigations en investigations et trouvait plus d'un défaut à la cuirasse de cet ambitieux. Clotilde de Grandlieu servait à son père et à sa mère d'espions innocents. Quelques jours auparavant, elle avait pris Lucien pour causer dans l'embrasure d'une fenêtre et l'instruire des objections de la famille. « Ayez une terre d'1 million et vous aurez ma main. Telle a été la réponse de ma mère, » avait dit Clotilde. « Ils te demanderont plus tard d'où provient ton argent, » avait dit l'abbé à Lucien quand Lucien lui reporta ce prétendu dernier mot. « Mon beau-frère doit avoir fait fortune, » s'écria Lucien. « Nous aurons en lui un éditeur responsable. » « Il ne manque donc plus que 1 million, » s'était écrié l'abbé. « J'y songerai. » Pour bien expliquer la position de Lucien à l'hôtel de Grandlieu, jamais il n'y avait dîné. Ni Clotilde, ni la duchesse d'Uxelles, ni Madame de Maufrigneuse, qui resta toujours excellente pour Lucien, ne purent obtenir du vieux duc cette faveur, tant le gentilhomme conservait de défiance sur celui qu'il appelait le sire de Rubempré. Cette nuance, aperçue par toute la société de ce salon, causait de vives blessures à l'amour-propre de Lucien, qui s'y sentait seulement toléré. Le monde a le droit d'être exigeant, il est si souvent trompé. Faire figure à Paris sans avoir une fortune connue, sans une industrie avouée, est une position que nul artifice ne peut rendre pendant longtemps soutenable. Aussi Lucien, en s'élevant, donnait-il une force excessive à cette objection, De quoi vit-il ? Il avait été forcé de dire chez Madame de Sérisy, à laquelle il devait l'appui du procureur général Granville et d'un ministre d'État, le comte Octave de Beauvan, président à une cour souveraine, « Je m'endette horriblement. » En entrant dans la cour de l'hôtel où se trouvait la légitimation de ses vanités, il se disait avec amertume, en pensant à la délibération de Trompe-la-Mort, « J'entends tout craquer sous mes pieds. » Il aimait Esther et il voulait Mademoiselle de Grandlieu pour femme. Étrange situation. Il fallait vendre l'une pour avoir l'autre. Un seul homme pouvait faire ce trafic sans que l'honneur de Lucien en souffrît. Cet homme était Jacques Collin. Ne devait-il pas être aussi discret l'un que l'autre, l'un envers l'autre ? On n'a pas dans la vie deux pactes de ce genre où chacun est tour à tour dominateur et dominé. Lucien chassa les nuages qui obscurcissaient son front. Il entra gai, radieux, dans les salons de l'hôtel de Grandlieu.